Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Ça va ?
Très bien.
Ah, alors, on continue sur les numéros du catéchisme 726 et suivant, ça te va ?
Très bien.
Au numéro 726, il est écrit: au terme de cette mission de l'Esprit, Marie devient la femme, nouvelle Ève, mère des vivants, mère du Christ total. Alors c'est assez dense. Est-ce que tu pourrais dire un mot sur, quand on dit qu'elle est la femme, est-ce qu'elle est la femme du Saint-Esprit ou l'épouse du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est signalé là par le mot de femme?
Alors nous avions vu une dernière fois que ce mot femme effectivement renvoie d'une manière ultime à l'épouse, comme l'annonce dans le fond le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est un projet d'épousailles. Et il est toujours bon de relire, par exemple, le passage d'Isaïe en chapitre 62, qui le dit admirablement. « Oui, on ne t'appellera plus délaissé, et de la terre on ne dira plus désolation, mais on t'appellera mon plaisir éternel et ta terre épousée, car le Seigneur trouvera en toi son plaisir, et ta terre sera épousée. » Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. C'est ça le projet de Dieu. Isaïe 62, donc, avec ce verset extraordinaire, verset 5, ton bâtisseur, c'est-à-dire ton créateur, t'épousera. Donc la Vierge Marie réalise d'une manière ultime cette vocation, je dirais, d'épousaille. Elle est la première en chemin, comme on le chante, c'est-à-dire la première qui réalise ce dessein d'amour bienveillant. Donc c'est la finalité ultime. Cependant, la finalité proche, il fallait que Jésus ait une mère s'il voulait devenir homme comme nous. Donc la première des causalités, c'est celle d'abord de la maternité. Il fallait que Marie soit mère de Dieu. Donc tout est compris en mariologie à travers cette thématique que nous avions vue, les mots d'Élisabeth, la cousine de Marie, qui dit « Comment se fait-il que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi ?» D'où l'expression « Mère de Dieu », nous avions vu, « Mère Théotokos », c'est-à-dire celle qui engendre Dieu dans son humanité, qui lui donne son humanité en quelque sorte. Et c'est cet axiome en quelque sorte qui n'est pas l'ultime, mais qui est le premier dans le temps. C'est-à-dire que si Marie n'était pas mère de Jésus, eh ben, elle serait une femme comme toutes les autres. Son identité de femme, par contre, est utile pour comprendre la finalité ultime qui est d'être l'épouse du bien-aimé, l'épouse de Dieu. Et Jésus, de ce point de vue-là, apparaît comme le bien-aimé du Cantique des Cantiques. C'est pour cela qu'on dira en tradition, je dirais, patristique, que la Vierge Marie est en quelque sorte la nouvelle Ève, par rapport à Ève, qui était la première Ève d'Adam. Donc, du coup, Jésus apparaît comme le nouvel Adam. Nouvelle Ève, nouvel Adam. Donc, c'est ça qui permet de comprendre ce mot si fort du catéchisme de l'Église catholique en disant qu'elle est femme. Et par ailleurs, comme elle est femme, eh bien, elle va pouvoir être mère. Et en étant mère, elle va être mère non seulement du Christ, mais tous ceux qui sont fils dans le Fils, selon la belle expression de Gaudium et Spes du Concile Vatican II, c'est-à-dire de nous tous, donc mère de l'Église.
Et c'est justement le terme qui est utilisé, il est question d'être mère du Christ total. Alors c'est un peu curieux, est-ce qu'il y a une Christ petit bout et Christ total?
Oui, effectivement, c'est une vieille expression. Ce Christ total qui remonte à saint Augustin. Il faut bien sûr avoir en mémoire les autres passages du catéchisme de l'Église catholique. Et comme on ne peut pas les avoir tous en mémoire d'un seul coup, eh bien, le catéchisme répète souvent les choses. Et le Christ total, qu'est-ce que c'est? C'est tête et corps. C'est une expression qu'on voit dans l'Épître aux Éphésiens, qu'on voit dans l'Épître aux Colossiens. Jésus est la tête de son Église. Et l'Église est le corps du coup du Christ, un corps bien sûr que l'on peut appeler, si vous voulez, mystique ou spirituel selon les âges de l'histoire de l'Église, on l'a désigné comme cela. Mais Marie est non seulement donc la mère de la tête, parce qu'elle a engendré Jésus par l'action du Saint-Esprit, mais en plus elle est la mère de l'Église. Au pied de la croix, elle reçoit Saint Jean, figure de tous les disciples fidèles. Et qu'est-ce que Jésus dit à sa mère ? Femme, voici ton fils. Et c'est extraordinaire. Il l'appelle femme de la même manière dont nous venons de voir ce sens de femme, c'est-à-dire celle qui réalise pleinement cette vocation d'épouse du Cantique des Cantiques. Elle est l'épousée par excellence. Elle reçoit ce magnifique nom, je dirais, général de l'histoire de l'humanité. Elle est la femme accomplie par laquelle Jésus accomplit les promesses. Et voilà.
Ça veut dire qu'on est, appelé, donc on ne peut pas naître physiquement de Marie, mais on est appelé à une naissance de Marie, une naissance spirituelle de Marie.
Nous recevons effectivement, comme Jésus est né, nous recevons d'une manière semblable, évidemment, mutatis mutandis, comme disent les Pères, c'est-à-dire en changeant ce qui doit être changé. Notre filiation n'est qu'adoptive, selon l'expression de l'Épître aux Galates. Et donc, nous n'avons pas une naissance physique, mais nous avons une naissance spirituelle. Et c'est le baptême qui le réalise. Le baptême nous donne cette naissance spirituelle. C'est pour cela qu'au cours des cérémonies de baptême, on aime bien, à la fin des baptêmes, invoquer la Vierge Marie, voire même faire un don, une sorte de consécration à la Vierge Marie à la fin d'un baptême, pour bien montrer que on a voulu passer par la maternité de la Vierge Marie pour recevoir ce don de la grâce de filiation adoptive. Mmh. Alors Bossuet a une belle expression. Il dit « Le nom d'épouse, quand on parle de l'Église, distingue pour réunir, et le nom de corps unit sans confondre. » C'est très fort de dire cela, c'est-à-dire
tu
que...
Tu peux répéter.
Alors je redis, oui. Le nom d'épouse, quand je parle de l'Église, distingue pour réunir, alors que le nom de corps unit sans confondre. Pourquoi dit-il ça ? C'est un peu une allusion à Chalcédoine, adaptée au mystère de l'Église. Vous vous souvenez, dans le concile de Chalcédoine, on disait que sur les deux natures de Jésus, puisqu'il est une personne divine et qu'il a deux natures, la nature humaine et la nature divine, qu'elles sont, ces deux natures, sans confusion et sans changement, et sans division et sans séparation. Eh bien, en adaptant ce que Bossuet vient de dire avec tellement de perspicacité, eh bien, on peut dire, sans confusion et sans changement, telle l'épouse, ne se confond pas avec l'époux, sans division et sans séparation, tel le corps. Et c'est vrai que le corps reste toujours uni à la tête. Et la Vierge Marie est donc épouse par rapport à la première formule, mais elle est aussi dans le corps du point de vue de la deuxième expression. Et les pères du Concile Vatican II ont donc été obligés de se partager. Une moitié voulait définir tout ce qu'il y avait de mariologie en ne parlant que du Christ, et une autre moitié voulait que l'on parle de la Vierge Marie comme étant intégrée à l'Église. Et finalement, ils ont tranché en disant la Vierge Marie est membre de l'Église. Elle est un membre éminent, comme disait saint Augustin, mais elle est quand même membre de l'Église. Et de ce point de vue-là, elle est corps éminent du corps du Christ, celle, dans le fond, qui représente le mieux ce vers quoi tous les autres membres tendent de ce corps. Donc c'est très beau, elle est la première à avoir, d'une certaine manière, reçu la grâce qui fait d'elle une fille adoptive, au sens plein du terme, dans le mystère de Dieu.
Elle est membre de l'Église, mais récemment le pape a demandé à ce qu'on la vénère aussi comme mère de l'Église le lundi de Pentecôte.
Oui, effectivement, donc mère de l'Église, tout à fait, puisque comme l'Église est, si je la prends du point de vue de saint Augustin, que l'Église c'est le Christ total, tête et corps, alors puisqu'elle est la mère de la tête, elle est mère du corps, et donc elle a bien reçu, comme Paul VI l'avait demandé pendant le Concile Vatican II, qu'elle soit appelée mère de l'Église. Alors la difficulté des numéros du catéchisme, il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont répartis dans différentes sections pour mieux suivre le credo. Le schéma du catéchisme de l'Église, c'est le credo de l'Église, et de ce point de vue, on a plusieurs sections. On a d'abord, par exemple, de 721 à 726, c'est ce que nous sommes en train de regarder, l'Église dans la Vierge Marie, dans le mystère du Saint-Esprit. 487 à 507, c'était la Vierge Marie dans le mystère du Christ, et puis on reverra encore une section un peu plus tard, 963 à 975, vraiment Marie comme membre de ce corps. Donc n'anticipons pas, nous sommes tout à fait dans la ligne de la distribution du catéchisme qui, comme on le voit, n'a pas voulu, je dirais, faire un cours de mariologie complet, mais plutôt relier la Vierge Marie dans les différentes sections du symbole de Nicée-Constantinople ou des apôtres, pour bien montrer qu'en fait, elle est partout présente, puisqu'elle fait partie du dessein d'amour bienveillant de Dieu.
Très bien. Ben, merci, frère Édouard. Et juste en 725, il est question de cette Marie qui met en communion, donc on la voit agir pour aider l'Église à rester toujours unie. Elle met en communion avec le Christ tous les hommes et les humbles de la terre, les bergers, les mages, Siméon et Anne, les époux de Cana, les premiers disciples. Donc on voit qu'elle a une mission dans avec le Christ de communion et de réunion.
C'est magnifique, oui. Ça nous montre combien nous avons besoin de la Vierge Marie, qui s'est appelée elle-même l'humble servante du Seigneur. Merci.
À bientôt.